Voilà, donc la présentation a pour titre un discours à décoder. Il n'y a pas de secret. Vous voyez, l'illustration qui figure en bas à droite de la diapo montre un petit peu de quoi il va être question. En effet, je vais vous parler de loi. Je n'ai pas mis dans le titre parce que ça pourrait être un petit peu rebutant. Je vous donne le plan. En introduction, la loi, c'est quoi? Diverses lois, les lois de la Bible. La loi pour Jésus et pour nous, comment vivre les 10 commandements, puisqu'effectivement les deux tables qu'on a vues y faisaient allusion, et en conclusion, un verbe à conjuguer. Voilà, alors la loi, c'est quoi? C'est une présentation que j'ai faite à des jeunes aussi, un petit peu remaniée, mais je n'ai pas trop retouché les illustrations qui s'adressent donc à un public plutôt jeune. Alors voilà, ça nous rajeunit un petit peu, ceux qui ont pris de l'âge comme nous. Et voilà, on est tous jeunes, hein, dans sa tête, on l'espère, dans son cœur aussi. Alors la loi, c'est quoi? Lorsqu'on évoque la loi, surtout pour les jeunes, je répète encore, ou des règles, la première impression qui vient à l'esprit est souvent négative. On pense à toutes sortes de contraintes, d'interdits, qui nous empêchent d'accomplir nos désirs, qui entravent notre épanouissement personnel. Dans notre tête résonnent les arrêtes, stop, interdit, fais pas ci, fais pas ça. Et alors, la loi se résume très souvent à une liste d'interdictions, du moins plusieurs le ressentent comme ça. Et ça, on le vit dans de nombreux domaines. On le vit dans la société, on le vit à l'école, on le vit quelquefois dans l'église même. À la maison aussi, pour les jeunes. Et dans le monde où on est, où on vit, on a l'habitude souvent de contester la loi dans la société. Et souvent, on la dénigre, on la critique, on veut même la refuser ou la contourner pour agir à sa guise. Et dans ce domaine, les jeunes, quelquefois un peu manipulés, ne sont pas en reste. Hein. On constate que la contestation, quelquefois, tourne à la violence, malheureusement, et à l'opposition vraiment caractérisée envers les autorités. Les faits divers le prouvent constamment. Alors, est-ce que la loi, c'est vraiment ça? Est-ce que c'est uniquement ça, une liste d'interdits? Je ne crois pas, car la loi, on va le voir et le dire, pose des limites et définit un cadre. Et la loi morale propose aussi une conduite à tenir. Diverses lois. Dans la nature, eh bien, il y a des lois qui définissent un cadre, le cadre dans lequel notre univers fonctionne. On a remarqué que lorsqu'une même cause entraîne toujours les mêmes effets, eh bien, il semble que les choses sont soumises à des lois. Et l'univers et la nature sont soumis à des lois complexes. Même les savants les plus émérites n'en comprennent qu'une partie. Et pourtant, la plupart d'entre eux affirment que si ces lois n'existaient pas, ce serait le chaos. On pourrait se poser la question, pourquoi l'univers? Pourquoi l'univers est-il gouverné par des lois? On vient un peu de le dire, ce serait peut-être le chaos s'il n'y avait pas ces lois. Mais à cette question, vraiment, aucun savant ne peut répondre. En fait, l'objet de la science n'est pas d'expliquer le pourquoi des événements, mais plutôt le comment des événements ou de la création ou des choses, de ce qui existe. Alors, que nous le voulions ou non, de toute façon, nous sommes soumis à ces lois. Celles-là, on ne peut pas les critiquer, les dénigrer et on ne peut pas s'y opposer. Alors, juste en passant, quelques savants qui ont marqué l'histoire de la physique ou de l'astronomie, un certain Kepler, au XVIIe siècle, début du XVIIe, a découvert les relations mathématiques, dites lois de Kepler, qui régissent les mouvements des planètes sur leur orbite. Sir Isaac Newton, à partir de ces lois, a élaboré la théorie de la gravitation universelle. Il aurait eu la révélation, paraît-il, en observant la chute d'une pomme. C'est lui qui établit les trois lois universelles du mouvement. Plus près de nous, Albert Einstein a publié la théorie de la gravitation universelle, de la relativité générale, pardon, et avec la fameuse loi E égale à MC2. Job pouvait dire, lui, il y a longtemps, je me reporte plusieurs milliers d'années en arrière, « Connais-tu bien les lois des cieux ou établis-tu leur empire sur la terre ?» Donc déjà, Job avait conscience de l'existence de lois qui régissent l'univers. Il avait donc une révélation vraiment de Dieu, hein, Stegar, qui lui adressait cette parole. Il y a des lois aussi dans la société. Alors, nous vivons dans une société où presque toutes les activités sont régies d'une façon ou d'autre par des lois, qu'on peut appeler aussi des règles. Bon, il y a des règles du savoir-vivre qu'on apprend aux enfants. Hein, il faut faire monter la fourchette vers la bouche, etc. Ce n'est pas la bouche qui descend vers l'assiette, par exemple. On trouve ça dans le savoir-vivre pour les nuls. Hein, c'est un extrait du savoir-vivre pour les nuls. Selon les pays aussi, il y a des règles différentes. Au Japon, paraît-il, il faut faire beaucoup de bruit en mangeant pour montrer qu'on apprécie la nourriture préparée par le chef. Hein. Il paraît qu'il faut faire un sursur, etc. Et là, au moins, on dit vous appréciez, vous êtes satisfait. Bon, chez nous, ce n'est pas tout à fait la même chose, plutôt le contraire. Il y a des lois de toutes sortes. Il y a des lois, les jeux ont aussi leurs règles. À l'école, moi, je parlais de la grammaire, de l'orthographe. Voilà, alors c'est des lois que souvent, avec lesquelles les enfants sont un peu réfractaires pour la plupart. Et il y a des lois de l'hygiène, de la propreté, qui sont importantes. Hein. On sait que les épidémies souvent résultent du fait de la non-application de ces lois. Il y a des lois dans le sport, il y a des lois dans le code de la route aussi, le théâtre même, voilà, on trouve des lois partout, le théâtre classique, la fameuse règle des trois unités. Je vous fais grâce des notices, des posologies pharmaceutiques ou des modes d'emploi divers, hein, où ceux qui sont loin ne peuvent pas voir, ici c'est des effets indésirables, et souligner un certain nombre d'effets. Ah ben Richard, tu me quoi ça? Tu as réduit la laisse? Merci. Donc, les effets indésirables, rares, généralement bénins. Douleur, anorexie, insomnie, cauchemar, extrasystole, tremblement, bouffée, etc. C'est bénin. Ça, c'est les laboratoires qui veulent rassurer les patients. Si on continue, qu'est-ce qu'une loi? Bon, le mot vient du latin. On a vu hier que j'aimais le latin et qu'elle a fait remarquer. Lex legis, c'est bien connu, qui veut dire lui-même, qui vient du mot legare, qui veut dire lié, attaché. Donc la loi, c'est quelque chose peut-être qui nous attache et à laquelle on doit être plus ou moins attaché de façon volontaire ou non. La loi est une règle juridique en droit qui est générale, qui est impersonnelle et on appelle aussi loi l'ensemble de ces règles qui s'appelle la loi. Alors la loi, en principe, eh bien, elle est faite pour qu'on la respecte. Soit on en comprend l'utilité, on approuve son contenu, la soumission paraît alors plus facile. Soit on ne la comprend pas, mais on appréhende les sanctions, les conséquences, et on s'y plie. Soit encore, alors on va manifester, comme j'y ai fait allusion tout à l'heure, pour son retrait. Quoi qu'il en soit, avec la loi, ce n'est pas toujours facile. On le voit ici avec quelques incohérences quelquefois, des situations qui rendent les choses assez difficiles à comprendre. Alors, en tant que chrétien, cependant, plus que tout autre citoyen ou tous autres citoyens, nous devrions être soumis aux lois de notre pays, que nous les apprécions ou non. En effet, ces lois émanent des autorités qui, elles-mêmes, sont établies par Dieu. Chacun connaît le chapitre 13 de l'Épître aux Romains. Je lis quand même le début, les trois premiers versets. Il est écrit « Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu, et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. De sorte que celui qui résiste à l'autorité résiste à l'ordonnance de Dieu, et ceux qui résistent feront venir un jugement sur eux-mêmes. » On se rappelle qu'à l'époque, dans le contexte où les choses étaient écrites par l'apôtre Paul, c'est l'empereur en place n'était autre que Néron, hein, fameux empereur qui n'a pas eu toujours une appréciation complaisante et qui a été plutôt reconnu pour sa cruauté. Et on sait que c'est sous ce règne de Néron que Pierre fut crucifié et que l'apôtre Paul fut décapité. À leur regard aux infractions, nous constatons que des actions sont permises, d'autres ne le sont pas. Ce qui est défendu est la plupart du temps sanctionné, mais de différentes manières selon le domaine dans lequel on se trouve. L'infraction aux lois est sanctionnée par les tribunaux. Eh oui, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Je prenais un exemple avec les jeunes. Je disais, voilà, j'ai fait la fête, j'ai bu quelques verres, je prends le volant pour amener mes copains à la maison. Est-ce que je respecte ou non la loi? Manifestement, c'est un non-respect de la loi. Donc, il y a des conséquences possibles. Lesquelles? La sanction peut être rien, ou bien une amende, un véhicule abîmé, des traumatismes, des fractures, la prison, un handicap à vie ou la mort pour le conducteur fautif ou pour d'autres personnes. Donc, des conséquences peuvent aller jusqu'à la mort. Pourquoi des lois dans la société? C'est un peu ce que nous avons remarqué pour l'univers. Dans l'univers, ce serait le chaos s'il n'y avait pas ces lois. Dans la société, ce serait un petit peu la même chose. Sans règles ni lois, ce serait l'anarchie, la loi du plus fort, on imagine. Chacun ferait comme il lui plaît, au nom de la liberté, mais en faisant peu de cas de celle des autres. Lorsque deux personnes revendiquent un bien, elles ne vont pas régler l'affaire par un duel, qui était d'ailleurs très réglementé autrefois, au XVIIe siècle, par exemple. Dans toute société, il y a des mésententes, des conflits entre les citoyens, et on a donc besoin de lois pour garantir la protection, la sécurité, la paix à chacun. Les lois doivent être, bien sûr, dans l'absolu, dans un idéal que l'on recherche, doivent être justes, équitables, et pour justement établir ces droits fondamentaux d'égalité, de liberté pour tous. Mais on voit bien que si les lois, en établissant l'ordre social, réglementent en fait et règlent les comportements des individus, elles ne changent pas foncièrement ce qu'il y a dans chaque individu, c'est-à-dire la Bible parle du cœur, le cœur de l'homme, qui peut se plier à ces lois tout en restant ce qu'il est, en restant mauvais. Il semble que dans la compréhension qu'on a aussi du millénium, il en sera un petit peu de même, où les hommes se plieront au joug de justice que le Seigneur, le roi, fera régner alors. Mais que quand ils auront l'occasion de se manifester l'état de leur cœur, il y aura une révolte sous l'instigation de Satan. Voilà. Alors la société a également édicté des lois sur le travail, sur la famille. Et chacun aussi dans sa famille, eh bien, les parents font respecter aussi certaines règles pour la bonne marche et l'équilibre de la famille. Mais regardons un petit peu ensemble quelques lois que la Bible nous présente. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour trouver des lois. Au livre de la Genèse, déjà au chapitre 1er, verset 28, Dieu, qui a achevé son œuvre de création, dit à Adam et Ève, on y a déjà fait allusion hier ou avant-hier, « Ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. » Il les invite en quelque sorte à poursuivre le travail que lui a commencé. Il délègue, comme on a dit, et en disant un petit peu, « Voilà, j'ai fait ma part de travail, à vous de prendre le relais. » Et puis au chapitre 2, au verset 15, le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Si on poursuit la lecture, il lui fit cette recommandation. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans sa sollicitude, on voit que Dieu place l'homme dans un endroit que dans sa bonté, dans sa grâce, il a préparé, un endroit qui est ravissant, un jardin merveilleux. Et Adam et Ève, en fait, ont tout pour jouir de la vie, pour être heureux. Toutefois, ils auraient pu s'ennuyer un petit peu, là, tout seuls, à ne rien faire. Alors Dieu, sachant que le travail est bon pour l'homme, quoi que l'homme en pense, lui trouve un job et lui signe un contrat, en bonne et due forme. Voilà un patron hors du commun, comme on en trouve guère dans le monde, qui est sage, qui est plein d'attention, plein de bonté. Alors, c'est vrai que si on regarde la question de salaire, quelle était la rémunération? Ben, je pense que pour ce travail, il y avait une gratification en nature qui était quand même vraiment conséquente, vraiment substantielle. C'était le fruit de tous les arbres du jardin. Il y avait certainement du choix, on en est persuadé. Des fruits par centaines, par milliers, de variétés de fruits à consommer, tous plus délicieux les uns que les autres. C'est ainsi, la dernière pêche que j'ai achetée, il a fallu que j'achète la moitié à la poubelle. Bon, peut-être que je ne les avais pas pris au producteur, et encore, et encore. Et là, c'était vraiment du bio garanti, la qualité supérieure, les produits du terroir, vraiment, rien à redire. Hein. Ça devait être autant en qualité qu'en quantité, il y avait le top. Et pourtant, il y avait à cette générosité débordante, il y avait une infime restriction, il y avait un tout petit bémol à cette musique de ce magnifique concert. Et le bémol, c'était juste un seul fruit parmi l'abondance de fruits innombrables, un fruit à éviter. Un fruit à éviter, il fallait l'oublier celui-là. N'y pensez pas. C'est bien évidemment, chacun sait, celui que l'homme et la femme s'empresseront de goûter. Alors comprenons, que retient l'homme, qu'a retenu l'homme ou la femme? Eh bien, en fait, il a tenu pour nul l'abondance de bénédictions offertes par Dieu et il a focalisé son attention sur l'unique interdit, en fait. Cet interdit qui a pris des proportions démesurées, au point de lui paraître l'indispensable, celui dont on ne peut pas se passer. Et l'homme, en fait, a refusé la seule limite que Dieu lui avait imposée. C'est ça, c'est l'homme qui revendique le droit de tout avoir, de tout posséder, de tout consommer. C'est un peu notre portrait, la convoitise, et ensuite qui entraîne une mauvaise conduite, en désaccord, en désobéissance avec l'ordre de Dieu. Je ne m'attarderai pas sur les sept lois de Noé, qui sont appelées quelquefois lois noaïdes ou noachiques, qui sont une liste de sept impératifs moraux qui auraient été donnés, d'après la tradition juive, par Dieu à Noé, comme une alliance éternelle avec toute l'humanité. Donc pour les Juifs, c'est hyper important. Donc elles découlent, elles sont inspirées par le Genèse, livre de la Genèse, chapitre 9. Et j'en viendrai au cœur de mon exposé et à m'arrêter sur le décalogue. Voilà, des siècles ont passé, les dates divergent selon les calculs, je n'en donne point, et à une époque en tout cas, donc lointaine, plus de 1500 ans, plus de 2500 ans, 3500 ans ou 3600, je vais y arriver, eh bien ce même Dieu donne une loi, cette fois ce n'est plus à un homme, à une femme, mais à un peuple tiré d'Égypte, un peuple qui allait devenir une nation. La loi, est, il faut bien regarder les circonstances, elle est donnée à un peuple qui est tiré de l'Égypte, libéré de l'esclavage. Donc c'est vraiment dans ce contexte, et c'est un appel à vivre dans l'amour de Dieu et dans la liberté que Dieu offre à ce peuple. Mais une liberté qui doit avoir un cadre, justement. Et Dieu prononce des paroles. Il est dit en Exode 31, lorsque Dieu eut terminé de s'entretenir avec Moïse sur le mont Sinaï, il lui remit les deux tablettes de pierre sur lesquelles il avait écrit lui-même les commandements. Exode 31, verset 18. Est-ce que le peuple les a entendus? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Moïse les a reçus. Peut-être y avait-il cinq commandements sur chacune des deux tables. Voilà, toutes les suppositions sont permises. Peut-être que les 10 commandements étaient sur chaque table et que c'était en double, dupliqué. Ces 10 commandements ont été qualifiés de monuments plus impérissables que les pyramides. Le Seigneur Jésus, en tout cas, a déclaré en Matthieu 5, en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera point de la loi, que tout ne soit accompli. Alors on pourrait lire ensemble le résumé de ce qu'on appelle communément les 10 commandements. Les Juifs disent les 10 paroles. Elles sont souvent trop peu connues parmi nous, et on n'en parle peut-être pas assez. Alors c'est l'occasion de corriger ce défaut peut-être. Les numéros sont marqués, je ne vais pas les lire. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Tu ne te feras aucune idole. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras aucune idole. C'est, des fois, c'est mis dans le premier ou le deuxième. 3. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain. Souviens-toi du jour de Shabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas ce qui est à ton prochain. Moïse reçut également de très nombreuses instructions, dont une partie écrite se trouve dans la Torah, de l'Exode au Deutéronome, et d'autres sont devenues le fondement de la loi orale du judaïsme. Les tables de la loi établissent donc ainsi un cadre, comme on l'a vu pour plusieurs lois précédentes, des relations entre Dieu et les hommes, pour les quatre premiers commandements essentiellement, qui s'avèrent donc d'importance majeure, fondatrice, et puis des relations entre les hommes, des hommes entre eux, pour les six derniers. Le cinquième commandement faisait un petit peu le lien entre la première table et la deuxième, si on pense que les 10 ont été écrites sur les deux tables, comme je l'ai présenté. On comprend bien la hiérarchie et les priorités ainsi déterminées. D'abord, l'amour de Dieu, et puis l'amour des autres. L'amour de soi n'est pas mentionné, semble-t-il, peut-être je n'ai pas assez bien lu entre les lignes, mais si on lit un texte dans le livre du Lévitique au chapitre 19, verset 18, texte qui est repris abondamment dans le Nouveau Testament, il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, dans le respect des six derniers commandements, dans l'amour du prochain, eh bien, se manifeste aussi l'amour de soi. Et c'est la mesure qui est donnée pour l'amour du prochain dans cette loi. Voilà, cet exposé des 10 commandements se trouve dans 2 passages au moins, dans l'intégralité, ce qui souligne leur importance. Exode 20 et Deutéronome chapitre 5. Le décalogue. Alors, quelques remarques encore. Les 10 commandements peuvent être considérés comme un résumé de la Torah. Le mot signifie enseignement, instruction, commandement. Et c'est traduit le plus souvent par loi dans les Bibles. Il faut remarquer que cet enseignement, j'ai déjà dit, s'adresse à un peuple libéré d'Égypte. Il a un cadre précis et s'adresse à un peuple précis. Mais ce n'est pas, c'est le peuple lui-même qui est interpellé avec un tu, on l'a vu. Et en même temps, cela interpelle chacun, tout homme. Tout homme peut se sentir interpellé, tout Israélite d'abord, et nous aussi derrière, avec eux. Alors, il y a 3 commandements positifs que j'ai mis ici en bleu, et puis 7 négatifs. On peut être un peu étonné, mais voilà, il semble que cette loi insiste plus sur l'interdit. Ça nous rappelle la première loi qui a été donnée à Adam, hein, ce que tu pourras faire, mais sauf l'arbre, le fruit de l'arbre que je t'ai interdit. Alors ici, en fait, dans l'esprit, il y a, si on se replace dans le contexte, deux interdits. Il y a l'interdit de revenir au Dieu de l'Égypte, c'est pour ça qu'il y a une forte insistance sur le fait de s'attacher à un seul Dieu, au Dieu libérateur, et montrer que l'Égypte est le chemin interdit. Il ne faut pas y revenir, il ne faut pas retourner en Égypte. Et en même temps aussi, peut-être pour l'avenir, quand tu seras en Canaan, parce que ces lois s'adressent pour le peuple en Canaan, c'est pour ça qu'elles ont été reprises dans le livre du Deutéronome, au moment de l'entrée en Canaan, eh bien, il fallait ne pas reproduire les schémas qui avaient été vécus en Égypte, ne pas devenir soi-même oppresseur de son frère, ne pas rendre son frère esclave comme soi-même on avait été esclave en Égypte. On sait que dans la nature de l'homme, quelquefois, il reproduit les dommages qu'il a pu subir, les problèmes qu'il a pu avoir, des enfants qui ont des problèmes dans leur jeunesse, et ensuite, adultes, ils reproduisent ces mauvais comportements vis-à-vis de leurs enfants, ce dont ils ont souffert. Donc ici, voilà, cette mise en garde. Donc un chemin interdit, les dieux, et puis la façon d'agir, qui découle de cette façon dont Dieu a agi envers eux. Alors que visait cette loi? La loi, en Lévitique 7, est dit, c'est la loi du sacrifice pour le délit, mais c'est la loi quand même, c'est une chose très sainte. Romains 7 nous dit aussi, la loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Donc je pense que cette loi vise, premièrement, le premier objectif, c'est de révéler la sainteté de Dieu et d'indiquer comment y participer. Le deuxième objectif, c'est de faire connaître, qu'on a l'air du premier, c'est de révéler le mal. La loi révèle le mal, le péché de l'homme et son état de pécheur. Et la loi montre ainsi, implicitement, à l'homme sa nécessité de changer sa façon de vivre. Elle lui montre que la pratique du mal constitue une violation de la loi. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul le confirme en disant « La loi est intervenue afin que la faute abondât » dans Romains 5, verset 20. Et puis aussi dans Galates, on pourrait trouver d'autres passages. Alors pourquoi la loi? C'était une chose en plus, elle servait à faire connaître les fautes. Galates 3, 19. Je ne dis pas la fin du verset intentionnellement. Ensuite, un troisième objectif, c'est le bonheur de chaque personne, petits et grands. Je m'inspire d'un verset de Deutéronome 12, 28. « Écoutez toutes ces choses que je vous commande et obéissez-leur, alors vous serez heureux pour toujours, vous et vos enfants. » Un quatrième objectif, dans Josué, on trouve que Dieu lui dit « Sois fort et très courageux, efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée, ne t'éloigne jamais de cette loi, alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. » Josué 1,7. Donc réussir, peut-être, c'est un autre objectif. Réussir, aider à la réussite des projets entrepris, à la prospérité de l'individu, au succès, non pas au succès matériel, mais spirituel, en le remplissant de sagesse. C'est une promesse du Seigneur qu'il avait faite à Josué. Enfin, un cinquième point, la loi tutrice. Galates 3, 24 affirme « Ainsi la loi a été notre surveillant, pédagogue, jusqu'à la venue de Christ, afin que nous soyons rendus justes aux yeux de Dieu par la foi. » On a déjà vu ce mot hier, Guillaume en a dit un mot. C'est l'esclave de confiance qui, chez les Romains, conduisait l'enfant à l'école. Il avait la charge de sa sécurité, en même temps aussi la charge de son bien, de son éducation. Eh bien, par la loi, Dieu nous fait notre éducation aussi pour un meilleur avenir. Hélas, on sait que placé sous la loi, l'homme a échoué. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il s'est cru capable d'obtenir la justification de Dieu en accomplissant la loi. Jésus est la loi. À la question posée, « Maître, quel est le grand commandement dans la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le grand et premier commandement. Et le second lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Jésus n'a pas cité les 10 commandements de la loi. Est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il en a oublié? Perte de mémoire? Sûrement pas. Donc, il a su dégager dans ces 2 commandements l'essence, la substance de la loi. Et c'est Jésus qui va nous éclairer quant à cette loi. Pensez à une image. La loi était semblable à une fleur, dont le calice, ses parties vertes, les sépales, enserre le cœur, les parties délicates, et sont un petit peu peut-être rugueuses, duveteuses peut-être quelquefois. Et en tout cas, voilà, la loi était semblable à une fleur qui était encore fermée, et qui protégeait le cœur, les parties délicates, c'est-à-dire l'esprit. Et Jésus a fait s'épanouir cette fleur dans toute sa splendeur. Quel parfum alors pour Dieu! Jésus, qui lui-même a dit, ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir, littéralement remplir, dit-il en Matthieu 5. Paul a bien raison de dire que l'amour est donc l'accomplissement de la loi. La loi peut se résumer à un mot, amour. Romains 13, verset 10. On y reviendra en conclusion. Alors, je vous proposer de passer maintenant, non, pas tout à fait encore, une diapo, la valeur de la loi pour les chrétiens. Bon, cela découle de ce que cela a été pour le Seigneur Jésus quand même, même s'il était juif. Et comme juif, il a accompli cette loi. Lorsqu'il est question pour les individus d'obtenir la justification, la loi n'est d'aucun secours. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Je pense qu'on peut comprendre ça, du fait que la loi est inapte à justifier le croyant. Alors le Christ ne demande donc à personne d'accomplir la loi pour l'obtenir. Personne n'en est capable pour obtenir cette justification. Mais dans son amour, il offre la justice de Dieu à celui qui croit. Le privilège du croyant est d'être non plus sous la loi, mais sous la grâce, je ne vous apprends rien. Étant renouvelé par la présence de Christ en nous, croyants, nous pouvons maintenant vivre librement, joyeusement, cette loi, accomplir par l'Esprit Saint ce que commande la loi. Le psaume 19 dit un beau verset, « La loi du Seigneur est parfaite, elle rend la force de vivre. » Alors, on ne veut pas non plus tomber dans le théonomisme, qui une théorie, une doctrine qui voulait appliquer la loi de Moïse à la société actuelle, à une société chrétienne, anticipant un peu ce que sera le millénium, mais ce n'est pas dans cet esprit qu'on veut vivre la loi. Nous sommes soumis à l'éternelle loi de l'amour, seule garantie de notre liberté et de celle des autres. Je répète encore ce verset de Galates 5, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comment vivre les 10 commandements? Donc, on va passer un petit peu en revue, je vais peut-être essayer de pas trop traîner quand même. On va les relire un petit peu, peut-être sans les prégner, c'est quand même important. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Pour les Juifs, c'est peut-être le plus important commandement, et peut-être aussi pour nous, puisqu'il cadre les choses, il pose les choses, il sert d'introduction à l'ensemble, car il touche à la connaissance de Dieu. Quel bonheur! Dieu parlait à ce peuple, et Dieu nous parle aussi. Il est le Dieu souverain. Il veut établir une relation avec nous, meilleure celle que celle qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Il veut nous dire qu'il est pour nous. Il veut nous rappeler ce qu'il a fait pour nous. Comme au peuple d'autrefois, qu'il a libéré d'Égypte, nous aussi, nous sommes des libérés. Alors cette parole s'applique à nous. Il nous dit « Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi, je t'aime ». Il vient tout près de nous, il est le Dieu vrai, le Dieu puissant, le Dieu d'amour, et il veut nous donner la paix, la liberté. Alors il veut nous inviter à apprécier cette liberté, à partager la même atmosphère que lui, à communiquer avec lui, et à écouter encore cette parole. Il nous dit, puisque je t'ai libéré, reste libre. Et ne t'enlace pas en fait dans des liens humains qui peuvent être les liens du pouvoir, de la richesse, des fois des fausses impressions, des fausses pensées, des pensées négatives, l'impression de rejet. Mais regarde vers un seul, regarde vers moi. Alors on est introduit dans cette douce relation, dans cette douce communion avec Dieu, comme le peuple autrefois. Le deuxième, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne te feras aucune idole. Si le premier précepte embrasse la foi en Dieu, l'espérance, la charité, le deuxième condamne la superstition, l'idolâtrie, la magie, voire le satanisme, la sorcellerie. Dieu ne dit pas qu'il n'existe pas d'autre Dieu que lui. Il commande de n'avoir affaire qu'à lui. Le peuple d'Israël savait qu'il y avait plein d'autres dieux en Égypte. Ils en avaient connu. Ils en avaient côtoyé des dieux. Mais voilà, ces dieux, ce sont des démons, des faux dieux. Et Dieu veut montrer que c'est lui seul, qu'il faut avoir affaire à lui seul. Dieu ne supporte pas la concurrence. Donc pour les Juifs, déjà, Dieu est au-delà de toute conception. Il ne peut être représenté non plus par aucun objet, même symbolique. Alors ce Dieu désire être le premier dans notre vie. Ils ne supportent pas la concurrence. Est-ce que nous les mettons au-dessus de toute autre chose? Est-ce que, comme le peuple d'Israël qui mettait Jérusalem au-dessus de la première de ses joies, eh bien, nous mettons Dieu aussi au-dessus de tout, à part? Alors, ne nous fabriquons pas un Dieu qui nous convienne, soit avec nos mains, soit dans nos pensées. Un Dieu selon nos fantaisies, selon notre imagination, qui s'accommoderait de nos petits défauts, de nos péchés mignons, comme on dit parfois. Un mensonge par-ci, une attitude méchante ou colérique, par moment. En fait, ce Dieu n'existe pas. On a vu hier la barre que Dieu place aussi pour ce que nous avons à vivre comme chrétiens. Ne nous laissons pas non plus charmer par un Dieu matériel ou humain, par toutes les stars, les idoles. Ça, c'est plutôt adressé aux jeunes, bien nommés du moment, sur les joueurs de foot, les acteurs, actrices, les chanteurs, toutes ces personnes qui, dans un monde où miroitent les richesses, le pouvoir, l'apparence, et qui risquent de nous faire oublier les vraies valeurs. On a nous méfié aussi des philosophies naturalistes, du syncrétisme, qui est très à la mode actuellement, où on mélange toutes sortes d'influences religieuses. On prend un petit peu, on pioche un petit peu à droite et à gauche de ce qui est bon, par-ci, bon par-là. Rien n'est mauvais et il y a du bon partout. Le New Age, les divinités, Bouddha, Allah ou autre. On peut aussi se faire une idole de notre personne, de notre travail, de notre réussite. Alors, voilà, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est donc le rejet de l'idolâtrie. Notre Dieu est incomparable, unique. Quel autre Dieu pourrait nous aimer au point de donner son Fils pour nous sauver et faire de nous ses propres enfants? Aucun. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain. Pour les Juifs, ces promesses et serments sont des réalités dans le monde qui ne peuvent être traitées à la légère. Les Juifs, on le sait, pour éviter de profaner le nom sacré, en sont venus à éviter de prononcer ce nom ineffable, le tétragramme, Yod-Heh-Vav-Heh, sous sa vraie forme, et lui substitue le mot « Seigneur », en général, ou « Hachem ». Soyons bien conscients que le nom représente la personne. Agir au nom de quelqu'un, c'est agir à sa place. Nous devons montrer notre crainte et notre amour pour Dieu en respectant le nom du Seigneur, ce beau nom qui a été invoqué sur nous. Gardons-nous de profaner son nom par des jurements, mensonges ou un état hypocrite. On sait que dans le monde, ce nom est chaque jour profané. On entend « mon Dieu » sans s'adresser à lui. On entend de manière automatique « le bon Dieu » sans penser même qu'il existe. Dans des films, on entend « par Dieu, nom de Dieu », toutes sortes de jurons. Eh bien, ce langage est tout à fait banalisé, mais la Bible nous prévient qu'en dehors du pardon de Dieu, un blasphémateur ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Rappelons-nous aussi Matthieu 5, que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qui est de plus vient du mal. Et Jacques 3, on sait, a parlé de la langue aussi, et il nous dit que voilà, de la même bouche procèdent bénédiction et malédiction, il ne devrait pas en être ainsi. Voilà, je crois qu'il faut mettre dans le même sac les blasphèmes, les jurons et les insultes de toute espèce et jeter tout ça loin de nous. Voilà, donc, positivement, nous avons à veiller sur nos pensées, à surveiller notre langage et à prononcer, alors, plus fréquemment peut-être, mais avec cœur, avec réflexion, le nom de notre Père céleste et le nom du Seigneur Jésus, de façon utile, de façon bonne, heureuse. Que nous ne privions pas de cela. Je pense à ce verset de Romains 15 qui dit que notre bouche serve à glorifier Dieu. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pour les Juifs ont coutume d'allumer deux bougies au début du Shabbat pour illustrer les deux mots d'ordre que Dieu a donnés, observer et se souvenir. Le Juif cesse tous ses travaux pour se consacrer entièrement à Dieu, corps et esprit. Sur ce modèle, le repos dominical est la pratique en France d'observer un jour de repos non travaillé le dimanche. Alors aujourd'hui, un jour sur sept encore, Dieu nous invite à cesser, c'est le sens du mot Shabbat, notre activité, à ne pas nous en rendre esclaves, à lui faire confiance pour qu'il pourvoie nos besoins, à mettre à part du temps pour lui, pour d'autres, et cela peut-être plus spécialement le samedi ou le dimanche. le souvenir du Shabbat chez les Juifs, parce qu'il dit ce souvenir, je viens de citer, me fait penser aussi au souvenir que le Seigneur a établi pour que nous rappelions ses souffrances et sa mort en mémoire de lui. Voilà, ces versets nous montrent que le chrétien n'a pas de jour particulier à respecter lorsqu'il est dit l'un estime un jour plus qu'un autre jour, l'autre estime tous les jours égaux, Romains 14, et Colossiens 2, que personne donc ne vous juge en ce qui concerne le manger ou le boire, ou à propos d'un jour de fête ou de nouvelle lune, ou de sabbat, Colossiens 2. Donc le chrétien n'a pas de jour particulier à respecter, c'est pour ça que nous ne respectons pas le Shabbat. Et ce que nous pouvons faire, alors sanctifier, ça veut dire mettre à part, faire sortir de l'ordinaire, de ce qui est commun. Et de façon plus générale, cette sanctification préconisée aux Juifs du Shabbat me fait penser à l'application qu'on peut en faire, c'est pour nous de mettre non pas un jour, mais tous les jours de notre vie consacrés à Dieu. Et c'est peut-être ça l'application du Shabbat pour le chrétien. Donc pour notre bien, pour notre joie, nous offrons notre vie à Dieu chaque jour pour qu'il la remplisse de sa présence. Nous cessons de vouloir agir par nous-mêmes, nous laissons davantage Dieu agir, décider pour nous. Nous nous rendons disponibles pour lui, corps, âme, esprit. Fait penser à ce beau verset de Romains 12 qu'on est appelé à vivre et à réactualiser. Je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant réservé à Dieu, saint, consacré à Dieu, et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Au verset 5, au chapitre 5e commandement, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Donc, je l'avais un peu dit tout à l'heure, ce commandement ouvre la seconde table. Il indique l'ordre de la charité. Dieu a voulu qu'après lui, nous honorions nos parents, à qui nous devons la vie. Il s'étend au devoir des élèves, on peut dire aussi à l'égard du maître, des employés à l'égard des employeurs, des subordonnés à l'égard de leur chef, des citoyens à l'égard de leur patrie, de ceux qui administrent ou qui la gouvernent, selon Romains 13, 1 encore. Ce commandement implique aussi, par réciprocité, et sous-entend que les parents, les maîtres, les chefs, les gouvernants ont des devoirs aussi vis-à-vis des subalternes, de ceux qui leur sont soumis. Et tous ceux qui exercent une autorité sur autrui ont aussi des responsabilités et des devoirs. Comme dans la loi, Dieu a fait sa part dans l'alliance qu'il propose à son peuple et demande à son peuple d'entrer dans son alliance. Alors, pour les Juifs, pour l'enfant, c'est obéir à ses parents, puis devenu adulte, c'est les respecter. Ça ne marche pas. C'est les respecter en pourvoyant à leurs besoins toute leur vie. Alors nous devons craindre et aimer Dieu, obéir avec joie à son commandement, ne pas mépriser ou irriter nos parents, les jeunes disent quelquefois nos vieux, et plutôt les honorer, leur obéir avec amour et respect. Et on sait que voilà, la famille est un lieu privilégié pour commencer à apprendre l'obéissance. Elle sera utile toute notre vie avec Dieu. Et plus tard aussi, selon les circonstances dans lesquelles on peut être placé. Voilà, on peut se rappeler tout ce que les parents nous ont apporté, tout ce qu'ils nous ont offert quand nous étions petits. Est-ce que nous les avons toujours honorés aussi, quand ils sont devenus âgés? Respecter, valoriser, ça veut dire donner du poids, l'honneur, vient de ce mot, donner du poids, à nos parents par notre langage, par notre attitude, d'une manière qui plaise à Dieu. Et on sait qu'une promesse se rattache à ce commandement, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Promesse qui est rappelée dans Éphésiens 6, 2, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu prospères et que tu vives longtemps sur la terre. Le sixième, c'est. Pas passé. Tu ne tueras point. Bon, on pourrait dire que ça ne nous concerne pas, il n'y a pas de souci, pas de problème. Et pourtant, à travers le négatif, il faut voir ce qui est positif. À travers ce qui pourrait être passif, il faut voir ce qui peut être actif. Pour les Juifs, en réalité, le meurtre est interdit, mais ce commandement ne s'appliquait ni à la guerre, ni à l'exercice de la peine de mort. Donc seulement au meurtre illégal. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point porter atteinte à la vie ou à la santé de notre prochain. mais plutôt le secourir dans le péril et dans le besoin. Jésus nous avertit que si nous nous mettons en colère sans une bonne raison, nous sommes en danger de jugement. Si nous haïssons notre frère, Dieu nous appelle un meurtrier. 1 Jean 3,15. Nous pouvons violer les lois de Dieu par notre attitude, par nos intentions même. On voit dans cette belle parabole du Samaritain, en Luc 10, que Jésus nous montre comment garder ce commandement. Tu ne tueras point. Non seulement il ne va pas tuer l'étranger, non, c'est une parabole, hein, mais il va pas passer non plus indifféremment à côté de lui, mais pris de pitié, il s'approche, il le soigne et lui sauve la vie, il le guérit, il le fait vivre. Donc les Juifs aussi ont vu dans ce commandement, un peu comme le Seigneur l'a montré avec les paroles de colère ou dans la haine, eh bien ils ont vu aussi la colère, le refus de pardonner. Ils disent que quand Dieu a donné ce commandement de ne pas tuer, il a aussi interdit la haine, la malice, la colère, la vengeance et le refus de pardonner. À l'image de Dieu, donc, nous sommes invités à montrer cet amour qu'il a envers nous en pardonnant. Tu ne commettras point d'adultère. L'adultère, ce mot définit l'infidélité conjugale. Lorsque deux partenaires, dont l'un au moins est marié, nouent une relation sexuelle, et même éphémère, ils commettent un adultère. Alors, pour les Juifs, selon la tradition, l'adultère concernait d'abord uniquement la femme. Qui avait eu des relations sexuelles avec un autre homme que son mari. On le voit dans l'épisode de l'Évangile, hein, cette femme a commis adultère, que doit-on lui faire? Il faut la lapider, n'est-ce pas? Voilà, la femme, l'homme, il n'était pas question. Et alors ça s'expliquait parce que la polygamie n'était pas interdite à un moment donné, et lorsqu'elle fut interdite, alors l'homme fut concerné aussi par ce commandement, mais alors que la loi dans le Lévitique, punit autant l'homme que la femme. Lévitique 20. Voilà, je ne vais pas développer tout le mal que peut entraîner ce péché. C'est une offense à Dieu d'abord. On voit l'exemple de David. Un tort causé au conjoint qui est trompé. Remords et souffrance pour l'auteur souvent. Conséquences souvent irréparables de cet acte. Mais voilà, Jésus affirme, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, eh bien moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, pas un regard simple, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Le Christ condamne l'adultère même de simple désir. La Bible dit que les débauchés, ceux qui ont des relations sexuelles hors mariage, les adultères, les pervers ou les homosexuels n'entreront pas dans le royaume de Dieu s'ils ne sont pas pardonnés. 1 Corinthiens 6. Nous devons craindre et aimer Dieu afin d'être chaste et pur dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, et de nous aimer, de nous honorer dans la vie de couple. Prendre le contre-pied de ce qui est dit pour le vivre de façon active, de façon positive. Apprenons aussi à être fidèles déjà en parole et en acte dans toutes nos relations familiales, amicales, dans nos relations de camaraderie, et à ne pas mettre d'embrouille aussi, de l'huile sur le feu, dans les relations de nos proches. Tu ne déroberas pas. Le 8e commandement défend de prendre ou de retenir le bien du prochain et de faire du tort au prochain, de quelque manière que ce soit. Alors pour les Juifs, ça inclut les biens d'autrui et l'enlèvement, le kidnapping d'une personne aussi. Alors je vais aller un petit peu vite, je vois l'heure qui tourne. Il suffit de prendre un objet de peu de valeur pour avoir volé. Hein. Pour avoir volé, c'est indépendant de la valeur de l'objet. Le dicton dit qu'il vole un œuf, vole un bœuf. Et c'est vrai qu'il y a non seulement c'est les péchés de commission, ce que l'on commet, les fautes qu'on commet, je vais trop vite, pardon, mais il y a les péchés d'omission. Si on ne répond pas à un besoin avec nos ressources, est-ce qu'on n'est pas aussi, d'une certaine manière, aussi coupable que si nous avions volé les plus démunis? La parole a l'air de nous dire, Proverbe 3 dit « Chaque fois que tu en as la possibilité, n'hésite pas à faire du bien à ceux qui en ont besoin. Ne dis pas à ton prochain de revenir le lendemain lorsque tu peux lui donner immédiatement ce qu'il demande. Voler les plus malheureux par notre inactivité est un crime aux yeux de Dieu. » Et Jacques 4 dit « Si donc quelqu'un sait comment faire le bien et ne le fait pas, il se rend coupable de péché. » Beaucoup de gens n'ont jamais considéré que leur manque de générosité vole également Dieu de ce qui lui est, de ce qui lui appartient. Dans Malachie 3, on connaît ces versets, Dieu qui dit à son peuple, « Pourtant, vous me trompez. En quoi ?» me demandez-vous. « Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. » Donc le fait de gruger son prochain offense Dieu et c'est une façon de lui ôter ce qui lui revient. Donc la loi nous intime l'ordre de ne pas voler, c'est une attitude passive, mais l'amour nous dicte d'aider notre prochain, c'est une attitude active, à conserver ce qu'il possède, à augmenter au contraire son bien-être. L'aimer plus que soi-même. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le 9e commandement interdit de travestir la vérité dans les relations avec autrui. Cette prescription découle de la vocation du peuple saint à être témoin de son Dieu qui est et qui veut la vérité. Pour les Juifs, il est interdit de mentir au tribunal ou ailleurs. Nous devons craindre et aimer Dieu aussi afin de ne pas mentir à notre prochain, de ne pas le trahir, le calomnier, le diffamer. Et puis, sur le mensonge, c'est vrai que quelquefois, on trouve des excuses du genre « j'ai trop à faire, je ne peux pas, c'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai fait ceci, cela ». Souvent, c'est pour se justifier. Mais est-ce que ça ne flirte pas avec le mensonge ? Mentir n'est pas un jeu, comme le croient aussi de nombreux jeunes, entre autres, ou moins jeunes. C'est manquer de respect envers l'autre, quel qu'il soit. C'est une forme de mépris. Mentir inclut aussi des déclarations exagérées. Bon, c'est vrai que dans le midi, on a tendance à enjoliver les choses un petit peu. Hein. Cela dépend bien sûr sur le ton sur lequel c'est dit. Le fait de rester silencieux sur des fausses accusations d'une tierce personne au sujet d'un innocent. Le fait de répondre incorrectement, un changement de ton ou tout autre subterfuge pour faire croire autre chose, eh bien, ça s'apparente au mensonge. Et cela relève du mensonge aussi. Et l'hypocrisie aussi est vraiment apparentée au mensonge. On peut regarder l'exemple du Seigneur Jésus qui, dans ce fameux verset de Jean 8, verset 25, à la question « Toi, qui es-tu » vous pouvez répondre « Absolument ce qu'aussi je vous dis. » Quel exemple ! Toute sa personnalité, ses motivations, ses pensées, ses actes, toute sa conduite était en cohérence avec ce qu'il disait. Donc, voyons que Dieu aime l'authenticité. Si nous croyons la vérité, pratiquons-la. Alors, loin de porter de faux témoignages contre ton prochain, eh bien, tu éviteras d'accuser ton semblable, de médire de lui, tu chercheras plutôt à l'excuser, à l'encourager, à le valoriser. On peut toujours trouver quelque chose de bien, de positif à dire, plutôt que de relever le mal contre son prochain. Tu ne convoiteras point ce qui est à ton prochain. Pour les Juifs, ne convoite ni sa maison, ni sa femme. Ou alors, imagine devoir aussi échanger ta place contre la sienne pour tous ses problèmes. Nous devons craindre et aimer Dieu afin de ne point désirer les habits, les chaussures, l'ordinateur, la voiture, le yacht, je ne sais pas, la maison, la villa, ni chercher à les obtenir par ruse ou par un semblant de droit. Quelquefois, on fait agir la justice de façon détournée. En fait, ce commandement, ça c'est des choses qui arrivent dans les successions en particulier, ce commandement nous met en garde contre l'égoïsme et contre le matérialisme. La Bible nous dit que les cupides, non pardonnés, n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6. Alors, au lieu de toujours vouloir autant, la Bible nous invite à être contents, satisfaits de ce que nous avons. Si nous avons la nourriture, les vêtements, cela doit nous suffire. La convoitise peut s'étendre à de nombreux domaines, celui de l'aspect physique, intellectuel, culturel, social, on l'a vu, mais aussi spirituel, que l'on envie chez quelqu'un d'autre. Il ne faut pas entretenir ce type de pensée parce que voilà, elles sont malsaines et nous amènent à souffrir inutilement. Sachons au contraire apprécier, donc hiérarchiser tous les biens que nous possédons et surtout apprécier ce qui fait la richesse de notre relation avec le Seigneur. En ce qui concerne autrui aussi, faisons tous nos efforts pour l'aider au contraire et lui garantir la possession de ses biens sans manifester de jalousie. Alors, un verbe à conjuguer, j'ai encore trois diapos. Si nous sommes chrétiens, ben nous sommes libres. La liberté que nous avons en Christ n'est pas un droit, elle est un don de Dieu. Si Dieu nous impose des limites, c'est pour nous éviter de faire le mal et c'est pour notre sécurité, notre bien-être. Si le Fils vous libère, l'Évangile dit, vous serez alors vraiment libres. Libre de quoi alors ? Ben, libre d'aimer, libre d'accomplir cette loi de l'amour. Jusqu'à quel point ? Il y a un verset de 1 Jean 3,16 qui nous sonde, « Par ceci nous avons connu l'amour, c'est que Jésus-Christ, lui, a laissé sa vie pour nous. Et nous, nous devons laisser nos vies pour les frères. » Alors au-delà des défenses et des interdits énoncés dans la loi, nous pouvons discerner ce chemin d'amour que nous propose le Christ, dans lequel il nous invite à nous engager. On pourrait rechercher, relever dans les évangiles comment le Seigneur a réalisé un peu chaque commandement de cette loi. J'en ai relevé un lorsque j'ai dit « tu ne tueras pas » et que j'ai cité la parabole du Samaritain. Alors, relisons le décalogue à la lumière de l'explication du Seigneur, de l'amour, et à la manière aussi dont lui l'a vécu, et qu'il soit le modèle de notre vie à chacun. Donc, le premier commandement « je suis l'Éternel », eh bien, c'est connaître et aimer Dieu. Toute la suite en découle, nous l'avons lu. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu, aimons-le lui seul. Tu n'invoqueras pas le nom de l'Éternel en vain, l'aimer pour l'adorer. Ça va un peu vite. Hein. Pourquoi ça ne marche pas ? Bon. Le 4, souviens-toi du jour de Shabbat, on l'a vu, aimer en vivant pour lui, en nous consacrant à lui. Le 5, honore ton père et ta mère, aimer ses parents, en les honorant, on honore Dieu en même temps. Le 6, tu ne tueras pas, aimer son prochain, lui porter secours. Le 7, tu ne commettras point adultère, aimer en pureté et en fidélité, avec fidélité. Le 8, tu ne voleras pas, aimer, aider l'autre, lui donner, au contraire de le gruger. Le 9, tu ne porteras point de faux témoignages, eh bien, aimer et valoriser, bénir l'autre. 10, tu ne convoiteras point, être content, être reconnaissant. Voilà donc une façon peut-être un peu plus active, positive, de vivre la loi. Les rabbins avaient énoncé la fameuse règle d'or, « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. » Ils affirmaient par là, à eux, à leur vue, l'essentiel de la Torah. Notre cœur naturel pense peut-être la même chose. On croit avoir fait beaucoup en respectant le droit du prochain. Mais en réinterprétant le décalogue, Jésus va beaucoup plus loin puisqu'il affirme positivement « Comme vous voulez que les hommes vous fassent, vous aussi faites-leur d'eux-mêmes. » Traite en tout ton prochain comme un second toi-même. Il est clair que Jésus ne veut parler que des désirs raisonnables et vraiment salutaires. Après avoir appelé l'amour que les siens doivent surpasser, celui de l'homme naturellement égoïste, Jésus leur montre quel est celui qu'ils doivent égaler, l'amour divin, source de tout amour gratuit et désintéressé. Nous vivons à une époque où beaucoup militent pour le respect des droits de l'homme, droits qui sont souvent bafoués, il faut le reconnaître. Et Jésus, dans son enseignement, dans son exemple, il a exposé le tableau de l'amour qui va jusqu'au sacrifice. Sacrifier ses propres droits. Il ne conçoit aucune limite au don de soi. Pour le Christ, quelqu'un a pu dire, la charité n'a pas d'autre limite que la charité elle-même. Il dit à chacun de nous, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, dit la Bible en français courant, Jean 13, 34. Ce n'est pas une option, c'est une obligation, c'est un commandement. un peu semblable à la loi. La perfection de la vie du Seigneur ne nous fait-elle pas envie? Ne nous pousse-t-elle pas à réclamer la force dont il veut nous communiquer par son esprit pour la faire naître en nous? Comme on l'a vu hier, la barre semble placée bien haut, mais ne nous décourageons pas. Jésus s'adresse à nous comme à des enfants de Dieu. C'est comme tel que nous pouvons, en fait, et que nous devons lui ressembler. Conscient de notre nouvelle identité en Jésus-Christ, on peut vivre de manière maintenant à traduire la réalité au quotidien de cette loi, même si ce n'est pas toujours facile. Et le décalogue, alors, nous apparaît comme une liste, non plus comme une liste d'impératifs qu'on doit observer, mais plutôt comme un parcours balisé, comme c'est un peu schématisé ici, qui nous permet d'avancer dans cette voie, dans ce domaine de l'amour. Ce n'est pas un carcan qui nous oppresse, des lois, ne fais pas ci, ne fais pas ça, comme on a vu un petit peu au début, mais plutôt un aide-mémoire magistral qui nous stimule. On a pu dire que l'Évangile est un postulat de la loi mosaïque. Il en démontre la vérité, l'efficacité, la substance, et de la loi que le Christ a proclamée. Il en montre toute l'authenticité, toute la valeur, toute la force. À nous, maintenant, de la mettre en œuvre, en sorte qu'on soit, que nous soyons, les fils de notre Père qui est dans les cieux.